Le midi.
Oh boy, 11h17, je vois Gabriel Nadeau-Dubois là, qui est en train de faire ses au revoir.
Ouais.
On dit que les critiques qui sont venues à l'interne de Québec solidaire lui ont fait beaucoup plus mal. Il n'a pas changé ses valeurs. De ce qu'on comprend, il se retire comme co-porte-parole. Puis pour l'instant, il n'y a pas d'autres aspirations politiques. Il va rester député de Québec solidaire. C'est bien ça?
C'est bien ça pour le moment, l'information voilà. que l'on a. Mais vraiment terminé pour la vie politique. Gabriel Nadeau-Dubois qui l'a annoncé publiquement aujourd'hui.
Mais ça va, ta grippe?
Il dit, je ne peux plus continuer dans ces circonstances-là maintenant que je suis père de deux enfants. Donc la famille est venue quand même dans le discours, comme on voit souvent. Mais il y aura d'autres détails dans les prochaines secondes. La grippe, pire en pire à chaque jour, mais garde, ça ne tuera pas une femme, ça.
Non, mais oui, mais c'est pas une
Contrairement
grippe.
À vous, on est fait forte lorsque le rhume et la grippe se pointent.
C'est pas une grippe d'homme. C'est pas une grippe d'homme. Martin Bourget, spécialiste chasse-pêche, comment ça va?
Hey, ça va bien, vous autres, comment ça va?
Enfin, Martin. Ça me semble ça fait longtemps qu'on y a parlé.
Ben oui.
Comme disparu un peu.
Aux armes, citoyens, on prend un bat de baseball, c'est le début de la chasse de la dinde noire.
Franchement.
Ben oui, on fait de la prévention pour pas que le même problème arrive à Louisville cette année. C'est aussi simple que ça.
Je m'ennuie.
En même temps.
Je m'ennuie du maire de Louisville. Je l'aime bien. À chaque fois que je le vois à télé, je l'aime bien.
C'est un épisode qui était loufoque, mais qui était très divertissant en même temps.
Les citoyens qui se faisaient courir par des dindons sauvages.
Oui.
Les gens qui filmaient, qui riaient, le monsieur qui se sauvait pour pas se faire mordre les fesses par le dindon. Tout était parfait là-bas. Là.
Mais il était violent.
Mais tu sais, ces gens-là ont qualifié le dindon sauvage sans jamais avoir eu d'affrontement avec une oie blanche ou encore une outarde qui protège ses petits. Une maman outarde qui protège ses petits, là. Un dindon, tu peux oublier ça. Ouais. Le dindon, ce qui est problématique, ça va être les ergots sur les pattes. C'est très, très, très tranchant.
C'est des griffes.
Mais une maman bernache, là, je vais te le dire, là, c'est comme une maman ours.
Ça clip.
Fonce.
Ah ouais. Mais
c'est
ça,
l'enfer.
Ça clip, ça n'a pas de dents, c'est une bernache. Là, fait que ça fait juste clipper. Ben,
sur le bec, il y a des petites aspérités qui pourraient être interprétées comme des dents, on pourrait le dire comme ça. Là. Honnêtement, ça grippe quand même pas mal, mais ça pince, je vais te dire, tu sais quand on s'amusait à faire des genres de bec de cheval en arrière des bras là, pour faire un bleu secondaire, ça fait ça. Okay.
Mais dans l'œil aussi, c'est pas le fun, je veux dire, le bec, là, elle a de la force dans le cou, c'est incroyable.
Parce que tu vois, au lac à Sainte-Marie, il y avait des bernaches qui venaient s'établir pendant un certain temps au printemps. Puis à l'été. Puis nous autres, on les avait comme un peu apprivoisés, on les nourrissait. Puis je me souviens de la maman bernache qui, quand mon petit Isaac il se promenait au travers des bébés bernaches, la bernache, il mordait les fesses de la couche à Isaac. Mais tu sais, il venait sur nous autres. Là, fait qu'il était vraiment très près de nos enfants. Puis nous autres, ben, il restait proche de nous autres sans nécessairement vouloir nous toucher. Mais c'était assez particulier. Mais oui, une bernache, ça clip. Là.
Oh oui, bernache, une oie, là, une canne, là, ça peut être quelque chose. Puis, n'importe quel gros oiseau comme ça qui est particulièrement terrestre, qui vole moins, on va se dire comme ça, parce que c'est la majorité de ses besoins de nourriture, l'eau, etc., donc, passe une majorité de son temps au sol, ça peut être assez impressionnant. Ça peut être assez impressionnant. Fait que la dinde, oui. En même temps, quand elle va vers des gens, ben des fois, tu sais, les dindons, c'est grégaire. Ça voit d'autres personnes. Grégaire, ça veut dire ça vit en groupe en temps normal. Là, le dindon se ramasse tout seul, il voit d'autres personnes ou il voit des animaux de compagnie. Il se rapproche-tu pour être sauvage ou s'il se rapproche pour voir s'il pourrait avoir une nouvelle gang de chums? Ça, il n'y a personne qui est dans la tête du dindon, mais oui, c'est logique dans les deux cas. Là.
Mais on a vu genre des facochères, des cochons, super cochons aux États-Unis, là, avoir un genre de mutation à force d'avoir focaillé avec d'autres espèces, devenir extrêmement violent. C'est un gros problème encore aux États-Unis. On en parle un peu moins que Donald Trump, vous comprendrez. Sauf que c'est là. Puis je me demande si avec la dinde sauvage, il y a quelque chose qui s'est passé dans les dernières années aussi parce que elle est violente, là.
Ben oui, elle est capable de protéger son territoire. Puis c'est pas une question d'hybridation. Puis, tu sais, au Québec, on a sur certains territoires, je sais pas si c'est encore existant, à Valcartier, entre autres, il y a des élevages de dindes. Il y a beaucoup de gens qui, domestiquement, vont garder des dindes comme de la Royal Palm, par exemple, qui sont des dindes qui viennent quand même assez grosses, qui vont engraisser pendant la saison. Mais il n'y a pas une présence suffisamment marquée de gros élevages de dindons au Québec pour avoir ce même phénomène-là. C'est le caractère de la dinde au départ. Moi, je me souviens, là, je devais avoir 21 ou 22 ans. On était allé chercher justement 8 dindes Royal Palm qu'on avait mis dans la volière chez nous. Puis c'était tout cute quand on les a amenés. Là. C'est des petits oisillons. Là. Et je vais te le dire, hein, quand c'était rendu grosseur adulte, là, je prenais la peine de mettre mes pantalons par-dessus mes lacets parce que ça avait l'air d'être des verres. Puis quand je mangeais un coup de bec sur le dessus du pied, là, adieu. Puis quand ils décidaient de me sortir de l'enclos, je niaisais pas trop. Tu sais, je veux dire, je voulais pas blesser les oiseaux, c'était pour manger plus tard. Mais c'est dans le caractère d'une dinde, de manière générale. Ouais. Elles sont comme ça. Elles sont très protectrices d'elles-mêmes. Puis en même temps, il faut comprendre, t'arrives devant elles. Dans la vie, une dinde, c'est une proie. Là. Ça a été fait pour être le lunch de quelque chose dans la vie. Fait que, tu sais, il y a une règle générale en nature qui dit...
J'ai toujours rêvé d'être une dinde.
Chacun ses rêves, hein?
Règle générale dans la nature, si tu te fais observer par des yeux plus gros que les tiens, sauve-toi.
Ouais, exact.
Donc, évidemment, ça riposte, ça va se défendre, c'est sûr et certain. Alors, la chasse ouvre.
Oui, c'est ça.
Donc, on a le droit d'être violent.
Ben, pas violent, mais vous autres, vous êtes des chasseurs responsables. Qu'est-ce qui fait que les agriculteurs en Beauce, puis on s'en était déjà parlé dans mon autre vie radio, là, les agriculteurs en Beauce, quand ils vous voient y arriver, ils vous disent oui de suite, puis ils vous demandent de tout tuer le cheptel au grand complet.
Sans scrupule.
Pourquoi les. Tire-le tout au complet,
fais
je m'en
tout fous. Ce que c'est fou.
Pourquoi les agriculteurs veulent vous voir arriver?
Bien, parce que le dindon sauvage cause quand même beaucoup de dommages sur les terrains, les terres agricoles. En partant, là, je vais prendre l'exemple le plus visuel pour la population. Là. Vous savez, les gros marshmallows blancs que vous voyez sur le bord du chemin, non? Ça, c'est du foin qui est. Je sais pas si c'est du foin ou de l'avoine, là, je suis pas bon là-dedans ou de la luzerne, là, mais qui est sous vide, du moins qui est couverte pour ne pas avoir d'humidité dedans. Et les dindes, en hiver, lorsqu'elles manquent de nourriture, ben, ils sont éduqués, hein. Ils montent sur ces marshmallows-là, puis ils vont fendre le plastique pour aller chercher la nourriture qu'il y a dedans.
Ah,
donc, ils font pourrir énormément de gros marshmallows. C'est des pertes réelles pour les agriculteurs. Ensuite, dépendamment de la quantité qu'il y a dans le cheptel de dindons sauvages, de la minute, puis vous le voyez présentement, là c'est en train de fondre, là, quand vous voyez un rond de terre au travers de la neige, là, ils sont tous là, puis la moindre petite pousse qui sort du sol, il y a bouffe. Fait que ça devient un méchant problème, un peu comme les oies. Tu sais, les oies et les outardes, on fait de la chasse pour en contrôler la quantité, puis entre autres pour les agriculteurs qui, autrement, sont obligés de faire de l'effarouchage parce que ces oiseaux-là, combinés aux dindons, vont pas ruiner une culture, hein, mais vont coûter énormément d'argent. Donc, selon le cultivateur, lui, il voudrait qu'on débarque avec un peloton de jeunes de jeunes de la relève, qu'on les fasse toutes chasser sur sa terre. La problématique, c'est qu'il y a une réglementation, on doit la suivre. On a un maximum de 2 dindons à barbe au printemps, puis un dindon avec ou sans barbe à l'automne, dépendamment des secteurs, évidemment.
Faudrait-tu le revoir, ça? T'sais, à un moment donné, probablement qu'il faut revoir nos papiers et nos façons de faire en se disant le cheptel a agrandi, il y a certaines complexités, on devrait peut-être permettre plus ou pas?
Moi, je serais pour une révision complète de ce plan de gestion-là, puisque, tu sais, d'une fois, il faut que tu regardes ton plan d'affaires puis tu te dises, bon, finalement, mon entreprise a le plus de croissance que je pensais, fait qu'il va falloir engager plus de monde. Là, on a mis un plan de gestion et on a tenté d'interpréter au mieux à quelle vitesse le dindon sauvage se reproduirait au Québec. Là, on est à mi-parcours, là, depuis l'implantation par la FDCP, le retour du dindon sauvage, hein, parce que ça a été réimplanté par la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs. On est à mi-parcours, ce serait le temps de regarder, faire comme, OK, ça, c'était le plan de match. OK, la croissance est beaucoup plus rapide que prévu. Il va falloir mettre des moyens en place pour que cet oiseau-là ne devienne pas surnuméraire, puisque nécessairement, s'il devient en surpopulation, il vient automatiquement attaquer la capacité de gestion des milieux, donc il prend de la bouffe d'un autre oiseau. Fait qu'il faut mettre des moyens de contrôle en place. Des moyens, du moins, pour au moins contrôler les quantités, le nivelé.
Ouais. Il a été introduit comment, le dindon sauvage au Québec? Il me semble qu'il y a de ça 20 ans, c'était pas un problème.
Non, c'était vraiment pas un problème. Là, je me souviens pas de l'année exacte de la première introduction par la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que ancestralement, cette grosse poule-là était présente sur le territoire québécois. Et les Premières Nations, c'était des proies qui étaient relativement faciles parce que le soir, ça se perche dans les arbres, donc ils pouvaient aller récolter ça. C'est beaucoup de nourriture d'une claque. Il a été surchassé. La surprédation aussi, coyotes, loups, etc., ont fait qu'on a perdu le dindon. Alors, ce qu'ils ont fait, la FDCP, c'est qu'avec des spécialistes, des ornithologues, etc., ils sont allés, des biologistes impliqués là-dedans, ils ont capturé des dindons sur les territoires qu'il y en avait encore, donc aux États-Unis, à gauche et à droite, et ils ont fait des relâchements, en commençant par les secteurs de, pas loin de Valleyfield, là, dans le coin de Saint-Anicette, dans le coin de la municipalité de La Pêche, ouais. aussi un petit peu plus haut, là, il y a eu des relâches qui se sont faites, puis de là, de ces sites de relâche-là, c'est fait populer le Québec en entier. Okay.
Ça parcourt, du chemin, même si ça vole très mal, ça parcourt du chemin.
C'est impressionnant comment est-ce qu'une bébite aussi lette puis aussi malhabile est capable d'arriver à ses fins puis de faire, oui, effectivement, un Christi de bout de chemin. Puis la dinde de Louisville en est un petit peu le témoin parce que comme dans n'importe quel cheptel animalier, quand tu commences à avoir trop de membres du cheptel, bien naturellement, la tête du cheptel, donc les dominants, vont mettre des jeunes mâles à la porte. Puis ces jeunes mâles-là vont être obligés, ils tombent nomades, hein, ils vont être obligés de se déplacer vers des nouveaux territoires, soit pour trouver une nouvelle gang d'amis ou pour trouver de la nouvelle nourriture. Parce que là, ils se sont fait dire par les alphas de l'autre gang, hey, pas assez de bouffe pour toi ici. Okay, il faut commencer à. Donc, et ces dindes-là qui sont errants, qui vont reformer des nouvelles populations, bien là, tu le vois, là, en à peine 10 ans, là, on est rendu qu'on en a. Écoute, on en a vu à la hauteur de. Je ne sais pas si vous savez où est-ce que c'est par an, là. Hein, on prend la route à Latuc, la route forestière, et on clenche au nord pendant je ne sais pas combien d'heures, là, sur le long du réservoir Gouin, là, au nord total. Là, on est tombé sur une dinde à l'intersection de la route de Parent.
Oui, c'est ça. Là.
Comme, elle s'adapte très, très, très rapidement et très, très bien. Les rigueurs de l'hiver québécois ne semblent pas l'affecter. C'est un oiseau qui est omnivore. Ça va se satisfaire de bourgeons autant que de petites grenouilles, que de sauterelles, de qu'est-ce que tu voudras, puis de pousses sur les terrains des cultivateurs.
Ça mange que ça peut.
25 avril, cette date-là, cette chasse-là ouvre officiellement au Québec le 25 avril. Donc, nous, malheureusement, on va déjà être parti pour l'Afrique du Sud, mais au retour, ça va être encore actif, la chasse aux dindons sauvages. Et c'est une chasse qui est très particulière parce que tu n'as pas le choix de te lever bien, bien, bien avant le soleil. Tu dois idéalement rentrer dans ton affût ou dans ton secteur de chasse pendant qu'il fait complètement noir. Et ça, c'est dû au fait que le soir, le dindon sauvage, il va se percher dans les grands pins blancs, entre autres. Alors, tu veux rentrer avant qu'il descende au sol parce que ça a une vue hyper perçante sur un kilomètre facile. Donc, si tu as un mouvement dans le kilomètre en face, et donc si tu rentres de clarté puis tu te fais repérer, tu es terminé. Il faut que tu rentres pendant qu'il fait complètement noir. Puis là, souvent, ben, c'est un temps de l'année où est-ce que c'est plus frais le matin. Donc, on est très, très, très habillé. On commence notre chasse quand on entend littéralement. Parce que généralement, la veille, je suis allé faire du repérage et j'ai vu où est-ce que les dindons sont allés se percher. Donc, le matin, je rentre pas loin de là. On va entendre les dindons descendre de leur arbre. La première fois que tu entends ça, tu as l'impression qu'il y a des arbres qui sont en train de tomber dans la forêt puis de ramasser tous les arbres en même temps. Ça fait du bruit, ça n'a pas de bon sens. Et de là, on va commencer à faire des petits bruits de femelles, des petits poc, 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 des petits pioux avec une espèce de poc en ardoise sur lequel on frotte un petit crayon qui imite un peu le son des petits purrs, des petits sons comme ça qui vont les mettre en confiance. Le troupeau de dindons va converger, on le souhaite, vers les faux dindons qu'on va avoir mis devant nous autres. Puis de là, ben, on va récolter généralement avec des fusils de calibre 20 ou 12. Ça se fait aussi à l'arc et à l'arbalète.
Ouais, il y a un auditeur qui te posait la question parce que tu disais que ça bougeait beaucoup, le dindon sauvage. Là, tu parlais du secteur de Valleyfield, puis là, dans le secteur de Parent, on a retrouvé. Bon, je suis pas un spécialiste en géographie, mais il y a un fleuve. Là. Est-ce que l'auditeur se pose la question, ça vole-tu vraiment? Es-tu capable de voler longtemps, ce dindon sauvage-là?
Bien, première des choses, ça a une bonne capacité, malgré que c'est pas un oiseau qui est équipé pour vraiment voler. C'est un oiseau qui est plus terrestre, mais c'est capable en masse. Puis tu sais, tu as juste à penser au petit méandre dans le coin des îles de Boucherville, puis etc. Il y a un paquet de places sur le fleuve où est-ce que le dindon est capable facilement de traverser. Il y a des endroits qui sont beaucoup plus restreints sur le fleuve. En haut, il y a les écluses, évidemment. Si on parle en tu sais, lac Saint-François, lac Saint-Louis, dans ce secteur-là, il y a des écluses, il y a des barrages d'Hydro-Québec. Bien, écoute, le lac Saint-François, c'est le lac qui est devant la municipalité de Saint-Anicette, où est-ce qu'il a été relâché des dindons sauvages.
Ah, voilà.
Donc, par le bas, quand tu arrives ces écluses, nécessairement, ça traverse à gauche et à droite. Hein.
Mais c'est fou comment ça se promène. T'sais, on parlait de ça il y a ça quelques semaines, toi et moi, un orignal qui avait été tagué en Beauce et qui a été retrouvé dans le secteur de Charlevoix. Je veux dire, voyons donc. Puis on les voit jamais se promener en ville. Là.
Non.
Cet orignal-là, il fallait qu'il passe.
Non, c'est un événement là, quand ça arrive.
Ben oui.
Oui, et puis là, tout le monde, là, ça fait la presse. Hey, on a vu un orignal en ville. Mais oui, mais t'es chez eux. T'as bâti sa maison chez eux. L'autre affaire qui est capotée ces temps-ci, c'est les opossums. On a des gens qui rapportent qui voient des opossums de plus en plus au nord. Ouais, dans le coin de, justement, Sainte-Anne-Sept, ces coins-là, la famille a un chalet là-bas. On est habitué d'en voir une fois de temps en temps, mais on est très, très, très au sud, à la limite sud. Mais là, on commence à voir des opossums beaucoup plus vers le nord. Et tu sais, la seule chose qui peut expliquer ça, c'est ces espèces de variations climatiques-là qu'on vit présentement. Fait que c'est sûr que vous allez voir les comportements fauniques changer énormément dans les prochains temps. Et tu sais, soyez pas surpris, là. Vous venez perturber la paix de leur milieu quand vous venez bâtir des quartiers, des maisons, des centres industriels, et etc. Puis en plus, il y a des variations climatiques. Fait que est-ce qu'il y a des comportements qui vont poser questionnement? Voyons, j'ai jamais vu un chevreuil par ici. Voyons, j'ai jamais vu un orignal, un ours, un renard, un ci, un ça. Ben, attendez-vous à ça, assurément. Ouais.
Nous autres, on avait croisé un opossum, c'était au sud de Montréal, c'était dans la grande région de Montréal, c'était pas sur l'île, là. Puis on l'a croisé, il était, écoute, le soleil venait de quitter, là, puis il y avait encore une certaine lumière. C'est laid sur un méchant temps, c'est plus laid que le cul d'un singe, là.
Ah.
Ça a la face
ça a le
blanche.
Droit de vivre, pareil.
Ça a la face blanche, ça a des yeux globuleux. J'ai déjà vu ça sur la Grande Allée du monde de même, là. Mais dans le bois, ça fait.
Dans le bois, surprise.
Tu sais, c'est une bébête que t'es pas habitué de voir.
Ouais,
t'sais.
C'est un peu particulier.
Non. Tu sais, plus vers. Justement, la partie nord des États-Unis, on va en voir quand on va en vacances dans ce coin-là. Une chance à son utilité. Une maudite chance à son utilité.
Ça a des bonnes dents. Ça a l'air assez aiguisé. Ça se fâche-tu, ça, des fois? Ça se fâche-tu, des fois, mettons?
Quand c'est pris d'un coin, comme un raton laveur, ça a à peu près le même comportement qu'un raton laveur, grosso modo.
Depuis que tu es chasseur, as-tu déjà eu l'impression que ta vie pouvait être en danger avec les animaux que tu chassais ou des animaux que tu croisais dans le bois?
Au Canada, à date, non. En Afrique du Sud, oui. Et c'est la raison pour laquelle j'y vais deux fois par année.
OK.
C'est un peu fou, hein? C'est un peu fou, mais...
Mais c'est quoi la bête?
Entre autres, un Cape Buffalo, il y a des années de ça, là, pas le Cape Buffalo que j'ai récolté l'année passée, là, mais il y a des années de ça, là, il y avait un méga Cape Buffalo qui était vraiment pas de bonne humeur après nous autres. Après ça, ben, tu sais, il y a des lions, il y a toutes sortes d'affaires. Puis à un moment donné, quand tu te ramasses dans le milieu d'une harde de 50-75 Cape Buffalo, il y a 2 ans, on a failli perdre un tracker. La femelle Cape Buffalo a terminé sa fausse charge à peu près à un pied en avant de lui. Elle défonçait. Il y a plein d'opportunités de finir ses jours là, en Afrique du Sud. Là. Je veux dire, sur le long du Limpopo, il y a des hippopotames. Souvent, on se promène sur le long de la rivière.
Ah, mais ça, c'est agressif.
C'est épouvantable. Là, tu te promènes sur le long de la rivière. Là. Le Limpopo, là, ça délimite l'Afrique du Sud au nord avec le Zimbabwe et le Botswana. On marche là, puis on se ramasse avec des buissons où est-ce que le caca d'hippopotame est en train de finir de dégoûter. Donc, on a des hippopotames pas loin de nous autres. On décide de bifurquer. On va se rapprocher un petit peu. On va sortir du bois. On va aller vers la rivière. Whoop! Un crocodile du Nil de 26 pieds qui sort nous dire bonjour. C'est un peu ça aussi là-bas. Puis c'est le quotidien que ces gens-là vivent, les gens qui sont en forêt là-bas. Ben, c'est sûr que voyons comment t'appelles ça, donc l'adrénaline que tu vas aller chercher dans les événements sur le terrain là-bas, c'est épouvantable. C'est une des raisons pour lesquelles je suis régulièrement là. Mais au Canada, ça m'est jamais arrivé. Le plus inquiétant qui me soit arrivé au Canada, je t'en dirais 2, femelle orignale pas contente. Ça, c'est ma plus grande crainte dans le bois, pas mal plus qu'un ours. Quand les 2 sabots d'en avant commencent à y lever, là, la commotion cérébrale est pas longue. Puis ça a 6 pieds de reach, ça, là, avec les pattes, là. Puis l'ours, c'était une vieille femelle ours, presque plus de dents en bouche, probablement très en douleur, donc excessivement mauvais caractère, puis qui attaque tout ce qui passe. Là. Mais tu sais, on l'a récolté parce qu'elle était dangereuse même pour les marcheurs potentiellement. Mais je me suis pas senti en danger non plus.
Moi, j'avais vu une vidéo, on s'en était régulièrement parlé, là, une vidéo où il y a 3 gars qui sont en train de faire de la chasse à l'ours de mémoire, et l'ours les a chargés. Puis le gars a réussi à descendre l'ours, là. Il devait même pas rester 1 mètre.
Ah,
oui.
Ah mais il shakait sûrement, je peux pas croire.
Il
pleurait.
Une fois que tout était terminé, là, la caméra était encore fixe, là, on voyait ce qui se passait. Il y a un des gars, là, il a fondu en larmes.
C'est sûr,
il était
stressé.
Il était sûr que c'était fini.
Oui, ben ça, on voit ça, tu sais, je veux dire, quand tu commences à aller niaiser dans le coin de Grizzly Island puis des places comme ça, parce que ça, c'est la charge d'un grizzly, là. C'est pas pareil, pantoute, là.
Je m'étais pris une note pour jaser avec vous, les gars, quand Martin allait revenir faire une chronique par rapport au nord, là, quand je suis allée au Nunavik, OK, à George River, il y en a qui partent puis qui font, mettons, quelques kilomètres de skidoo. Puis il y a quelque chose qui est arrivé à une femme puis son conjoint de fascinant, mais en même temps, je savais pas qu'un ours polaire, c'était aussi intelligent que ça. Peut-être, Martin, tu vas pouvoir dire la même chose que ce que je suis en train d'exprimer, mais je parle à un jeune qui, lui, fait de la guide, en fait, pour les motoneiges, la chasse, la pêche et tout ça. Le gars expérimenté, ça ne fait pas peur, un ours polaire, mais quand même, il y a une intelligence qu'on ne sait pas trop, là, parce qu'on les côtoie pas au quotidien, fait qu'on n'évalue pas ça, nous autres, dans notre vie, mais entre autres, l'ours polaire qui, par son odorat extrêmement développé, va sentir à des kilomètres à la ronde, va être capable, sous une épaisseur de 3 mètres de glace, de repérer des phoques qui sont dans une poche d'air en dessous, arriver au-dessus, prendre ses pattes, avec toute sa puissance fracassée, un trou, ça va assommer les phoques qui vont rester là, puis lui, il va aller chercher les phoques. Mais une histoire atroce est arrivée à un couple. L'ours polaire avait senti qu'il avait pêché dans la journée. Fait que lui, il est resté tout proche de leur campement pendant une journée complète. Quand ils sont allés se coucher, il est allé se rouler dans la boue pour être sûr de ne pas être repéré. Okay? Pour lui, c'était une façon de se camoufler. Ça me fait capoter parce que le cerveau de l'ours polaire a été analysé. Et puis après ça, il voulait aller chercher le poisson. Mais il s'est dit, si je commence à fouiller dans le poisson, je vais les déranger. Fait qu'il a approché de la cabane pendant le sommeil, puis la femme est sortie, elle, pour aller à la toilette. Mais l'ours, il s'est dit, elle va peut-être m'attaquer, donc moi, je vais l'attaquer en premier. Il est allé, avec sa gueule, ramasser la tête de la femme. Il l'a traîné. Puis son mari, il était à moitié sourd. Fait qu'il n'entendait pas la femme crier. Mais à un moment donné, il se réveille puis il voit qu'elle n'est plus là. Il sort dehors puis ils sont en train quasiment de se battre corps à corps. Là. La femme, elle ne veut pas y laisser sa vie. Elle n'est pas décédée à ce moment-là. Et là, l'ours continue de se battre avec la femme. Le mari sort sa carabine, réussit à charger, réussit à tuer l'ours. Mais la femme, elle se ramasse là, tête à tête à côté de l'ours polaire qui la fixe dans les yeux. Puis pourquoi je suis capable de vous raconter ça? C'est que la femme a survécu puis elle est encore vivante dans la communauté. Mais... tout le stratagème de l'ours polaire, moi, c'est ça qui m'a fasciné. Je veux dire, ça se peut-tu être aussi intelligent maintenant?
Ils ont des tactiques.
Quand t'es un animal, d'avoir analysé ça, d'aller te rouler dans le boue, d'attendre derrière une cabane.
Oh que oui.
Et voyons donc, Martin.
Oh que oui. Des grizzlies qui ont traqué des chasseurs sur des dizaines et des dizaines de kilomètres. Il y en a de même pour le cougar, pour l'ours polaire. Et oublie pas que l'ours polaire et le grizzly sont tellement similaires qu'il y a un nouvel hybride qui existe au nord qui s'appelle le pisli. Est un hybride entre l'ours polaire et le grizzly. Surpuissant en plus. Mais oui, ils ont cette intelligence-là qui est assez incroyable, oui.
Écoute, il y a un film qui m'a marqué, moi, sur la traque d'un grizzly. Là. C'était un film avec Anthony Hopkins puis Alec Baldwin, The Edge.
Oui.
Edge, en 1997. Moi, ce film-là m'est resté dans la tête là, parce que c'est plus les gars qui suivent le grizzly, c'est le grizzly qui est chasse.
Oui.
Complètement.
Oui. Carrément, carrément.
Mais ça, c'est véridique, mettons, que vous écoutez le film, c'est assez semblable à un comportement qui pourrait être vrai.
Oui, écoute, dans certains secteurs comme en Alaska, il y a certains secteurs, là, je ne veux pas nommer de territoire en particulier parce que je ne veux pas me tromper, là, mais il y a certains territoires de chasse aux grizzlies, certains territoires qui sont reconnus pour avoir beaucoup de grizzlies, que si tu veux monter au nord dans ces territoires-là, les rangers te donnent un cours qui est obligatoire avant d'aller au nord et t'as donné à la chasse aux grizzlies. Et ce qu'ils te montrent, parce que tu dois traîner un arme de poing avec toi en plus de ta carabine, ce qu'ils te montrent dans un cas d'attaque de grizzly, c'est de quelle façon sacrifier ton bras pour que le grizzly pogne ton bras en premier. Évidemment, ton bras, il est scrap après.
Ouais.
Question de pouvoir aller planter l'arme de poing sous la tête du grizzly et vider le chargeur. T'as une formation pour ça.
Oh, ouais,
parce que un grizzly, même s'il n'a pas faim, il va te pourchasser parce que t'es une opportunité pour marquer son territoire. Mm. Alors, lui, il va te chasser. Quand il t'aura attrapé, ben, il va te démembrer. Il va enterrer quelques membres un peu partout sur ton territoire.
Ouais.
Et il va uriner dessus. Puis il va marquer son territoire littéralement avec.
Mais The Edge, tu as raison, ça se passe en Alaska, puis c'est un ours Kodiak. Là. J'ai même le prénom de l'acteur.
L'ours.
Ours, c'est Bart. Bart the Bear.
De l'acteur.
Qui,
tu vois.
Ce film-là m'avait marqué, puis je pense qu'il doit être encore disponible là, sur certaines plateformes. C'est un film à voir parce que tout le long, tu te dis, qui va gagner? C'est-tu les êtres humains ou bien c'est le Kodiak? Martin, c'est toujours un plaisir. Pour avoir accès à tes trucs, on peut te voir sur les réseaux sociaux et où?
L'idéal, c'est les réseaux sociaux, rapidement. Sinon, le aventurechassepêche.ca, site qui est refait. On relance la plateforme d'abonnement là, dans les prochains jours, nouvelle plateforme d'abonnement. Sinon, sur les réseaux sociaux, toujours, hein, ce soir, on est en live. Puis justement, on est avec Steve Tardy, le Turkeynator, pour parler de tout ce que tu veux entendre sur la chasse aux dindons.
Le Turkeynator. Tout est parfait.
Oui, c'est le Turkeynator. Ah, il est capoté, lui. Juste l'entendre caler, là, c'est débile.
Comment ça cale un Turkeynator, Martin?
Il faudrait que je t'envoie une vidéo de ce gars-là parce que c'est l'enfer.
Essaye-toi, va.
Ah ben.
Aïe, aïe, aïe.
Pascal, t'es
capable? Non, ça va. Ça va. Oh, Yannick, bravo. C'est moi, ça va ressembler à un éléphant.
J'ai pas de câble avec moi. Je te le répète avec un câble. Moi, ça a l'air ridicule. J'ai plus l'air d'une tourterelle enragée.
Pour ton prochain voyage en Afrique, là, où tu t'en vas faire de la chasse, Martin, quelqu'un te propose le pitch de vente ici écrit. Fatigué, écœuré, viens finir tes jours en Afrique.
Oui. Salut, Martin.
Bye.
Bye-bye. Nous, on s'arrête. 13h42, on vient.
Marceau